Je vous propose de reprendre donc avec le deuxième cours de la journée, et donc le huitième dans cette série Programmer égal démontrer, la correspondance de CurryAward aujourd'hui. Et donc on va parler de techniques de step indexing, donc de comptage de pas en bon français, donc, que j'ai déjà brièvement mentionné à la fin du cours précédent, et qui en fait sont... Une poursuite, une extension des techniques à base de relations logiques, dont on avait déjà un tout petit peu parlé avant le 19 décembre, là, dans le cours sur la paramétricité. Donc je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait dit. Donc à l'époque, on avait introduit la relation logique comme un outil pour raisonner sur la paramétricité, sur l'indépendance vis-à-vis des représentations. En fait, on va voir qu'il y a encore d'autres utilisations. Et comme j'étais peut-être allé un peu vite, je vais me permettre de reprendre certains éléments. En plus, on va utiliser des relations logiques dans un cadre un petit peu différent, dans un cadre purement opérationnel. Donc, une relation logique, c'est une famille de relations R indexée par un type T entre 0, 1, 2 ou plusieurs programmes ou dénotations de programmes. Et la caractéristique essentielle des relations logiques, c'est que deux fonctions sont reliées au type T flèche S si et seulement si elles envoient des arguments qui sont reliés au type T sur des résultats qui sont reliés au type S. D'accord ? Et par exemple, donc si on suppose que la relation sur le type des entiers, c'est l'égalité, deux fonctions des entiers dans les entiers sont reliées si elles sont extensionnellement égales. D'accord, vous les appliquez sur le même entier, vous obtenez le même résultat entier, même si elles peuvent être différentes, au sens d'avoir des algorithmes différents. Par exemple, lambda n, n plus n, et lambda n, n fois 2. Pas forcément exactement le même calcul que vous menez, mais elles sont reliées au type int flèche int. Alors, on avait le 19 décembre, on avait pas mal utilisé de sémantique dénotationnelle. Donc, l'idée que nos termes, nos programmes, ils ont un modèle, par exemple, souvent en théorie des ensembles, et donc une fonction du programme, ça peut être vu comme une fonction mathématique. Alors, ça allège les notations et ça aide à faire des définitions plus compactes, mais ça a aussi d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser de sémantique dénotationnelle, uniquement des approches opérationnelles, en particulier parce qu'on veut avoir une notion d'étape de calcul, de nombre d'étapes de calcul qui nous mènent au résultat. Et ça, c'est quelque chose d'essentiellement opérationnel. Et donc, on veut le rendre explicite. Et donc, dans une vision opérationnelle, les relations logiques relient deux expressions du langage et non pas la dénotation de deux expressions du langage. Et la sémantique du langage est donnée donc, par cette relation de réduction à se réduit en A', ou se réécrit en A', qui représente moralement une étape de calcul, comme par exemple la bêta réduction quand vous appliquez une fonction. Et avec ça, on peut former des séquences de réduction à partir de notre programme A. Si on a une séquence infinie, ça veut dire que le programme diverge, un calcul qui ne termine pas. Si on a une séquence finie de réduction qui termine sur un terme V qui est irréductible et qui appartient à l'ensemble des valeurs, on dit que c'est une terminaison normale et que V, c'est la valeur de notre programme, c'est le résultat final. Et puis, on peut aussi avoir des séquences de réduction qui s'arrêtent sur un terme irréductible, mais qui n'est pas une valeur. Par exemple, le 1 appliqué à 2. Si vous avez un nombre entier vu comme une fonction et appliqué à un terme 2, ça ne peut pas se réduire, mais ça n'est pas non plus un résultat valide de programme. Donc on dit qu'on a une terminaison en erreur. Alors pour simplifier encore un peu plus, on va se fixer une stratégie de réduction. Donc moi j'aime bien l'appel par valeur. Donc on peut faire des bêta réductions. Si vous avez une fonction, lambda x.a, appliquée à quelque chose, vous pouvez substituer le paramètre x par l'argument effectif v dans le corps de la fonction et puis continuer les réductions, mais seulement si v, l'argument, a déjà été réduit en une valeur, donc ce qui force l'argument à avoir déjà été calculé jusqu'à une valeur. Bien, donc tout ça est assez classique, et du coup, quand on veut définir des relations logiques sans sémantique dénotationnelle, juste en opérationnel, en fait, c'est plus pratique de définir deux relations logiques. Il y en a une V, indicée par les types, et E, indicée par les types. V qui relie des paires de valeurs, et E qui relie des paires d'expressions, de calcul. Donc, par exemple, au type int, comme on disait tout à l'heure, les valeurs qui sont reliées, c'est les n et n, pour toute n entier, n valeur entière. Et au type T flèche S, les valeurs qui sont reliées, ce sont deux lambda, deux fonctions, lambda x1 à 1, lambda x2 à 2, telles que, si vous choisissez deux arguments reliés, V1 et V2 dans la relation V de T, alors les calculs obtenus en substituant x1 par V1 dans A1, x2 par V2 dans A2 sont reliés dans la relation des expressions au type S. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que deux expressions sont reliées, deux calculs sont reliés? Donc A1 et A2 sont reliés si A1 se réduit en un terme B1 irréductible, alors A2 se réduit en un certain terme B2, et B1 et B2 sont reliés en relation, sont reliés comme valeurs. Alors la définition, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Bon, la définition reste bien fondée par récurrence sur T. Si vous expansez la définition de E de S ici, vous voyez que V de T flèche S ne dépend que de V de T et de V de S. Donc il n'y a pas de problème de circularité dans cette définition. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Si votre terme A1 se réduit en erreur, donc B1 irréductible mais qui n'est pas une valeur, alors ça va forcément être faux, d'accord, puisque dans les V, il n'y a que des paires de valeurs. Et donc ça montre qu'un terme qui se réduit en erreur, en fait, est relié à n'importe quoi. Une troisième remarque, c'est que c'est une définition un peu dissymétrique par rapport aux définitions qu'on avait faites en sémantique opérationnelle, dénotationnelle. Par exemple, donc c'est A2 qui imite les réductions que A1 peut faire. Si A1 ne termine jamais, d'accord, A1 ne se réduit jamais en un terme irréductible, bah tout ça est vrai de manière évidente, de manière vide, d'accord. Et donc un terme qui diverge est relié à n'importe quel terme aussi. Donc on a une petite dissymétrie, mais qu'on peut rectifier en fait en reliant à la fois A1 à 2 et A2 à 1, par exemple. Et là, ça nous redonne une équivalence. Bon, mais j'avance un petit peu trop vite. Donc on peut montrer le théorème fondamental des relations logiques qu'on avait vu le 19 décembre, qui est qu'un terme bien typé, interprété dans deux environnements reliés, vous donne deux calculs reliés. Donc si votre terme A est type T sous des hypothèses XI de type TI, vous substituez, donc vous interprétez xi par vi d'un côté, v'i de l'autre, avec vi, vi' qui sont reliés. Alors vous obtenez deux calculs qui sont différents, deux interprétations différentes de A, mais qui sont reliés dans la relation E de T. Et un corollaire de ça, donc c'est l'équivalence contextuelle, qui est une propriété qui est souvent difficile à montrer, mais si vous avez que A1 à 2 et A2 à 1 sont reliés au type T, comme calcul, alors, pour tout contexte C qui va vous donner un entier à la fin, C de A1 s'évalue en N, si et seulement si, C de A2 s'évalue en N. D'accord. Et après, il y a plein d'autres corollaires qu'on avait vus le 19 décembre et qu'on ne va pas trop réutiliser aujourd'hui. Si on ajoute des types abstraits dans la relation logique, on obtient l'indépendance vis-à-vis des représentations d'un type abstrait. Si on ajoute du polymorphisme, on obtient des théorèmes gratuits, le fait qu'une fonction polymorphe satisfait forcément certaines égalités algébriques, etc. Bien. Et alors, en revanche, ce qu'on va faire beaucoup aujourd'hui, c'est de s'intéresser à des relations unaires, donc des prédicats, en fait, sur des valeurs ou des termes. En d'autres termes, c'est comment interpréter les types T comme des ensembles de valeurs et des ensembles d'expressions. Par exemple, l'interprétation du type int, c'est l'ensemble des valeurs n qui sont entières. Et l'interprétation du type t flèche s, c'est l'ensemble des lambda abstractions qui envoient des valeurs de vt dans des calculs e de s. Et une expression est type et si, quand elle se réduit en un terme irréductible, ce terme est dans l'ensemble v de t. Même remarque que tout à l'heure, une expression qui est en erreur, irréductible mais pas une valeur, comme 1 appliqué à 2, n'est dans aucun V de T. Et donc une expression qui se réduit en erreur, comme A qui se réduirait en 1 appliqué à 2, n'est dans aucun E de T. Et alors là aussi, on a un théorème fondamental des relations logiques. Donc si votre terme est bien typé et que vous interprétez ces variables libres par des valeurs du bon type, alors vous obtenez un calcul du bon type. Et le corollaire, un corollaire, c'est la sûreté du typage. Montrer que si vous avez un terme A de type T, sans variable libre, A ne peut pas se réduire en erreur. Soit il se réduit en une valeur, soit il diverge, parce qu'il est dans E de T, dans l'interprétation de son type, et on vient de voir que les termes qui se réduisent en erreur ne sont pas dans E de T. Et donc ça, c'est le fameux slogan de Robin Milner, « Well-typed terms do not go wrong », des termes bien typés ne partent pas en sucette, si je peux simplifier un peu la traduction. Il y a des techniques plus simples pour montrer la sûreté du typage, mais c'est intéressant de l'avoir juste comme corollaire ici. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et le problème auquel on va s'attaquer maintenant, c'est d'ajouter plus de types à notre relation logique et à notre modèle des types sous forme d'ensemble de valeurs ou de termes. Et en particulier, des types récursifs, donc des types de données inductives, voire algébriques, généraux. Alors, si nos types de données sont non récursifs, c'est facile. Par exemple, c'est facile d'ajouter le produit, T croix S, et la somme, T plus S. Les valeurs de type T croix S, ben, c'est les paires, VW, les couples, VW, tels que V est une valeur de type T, W une valeur de type S. Les valeurs de type T plus S, donc c'est soit l'injection 1 d'une valeur V qui est dans V de T, soit l'injection 2 d'une valeur W qui est dans V de S. D'accord ? Et le point important, c'est que la définition de V de T reste bien fondée par récurrence sur le type T. Les définitions ici font appel à des V pour des types strictement plus petits. À droite, les V sont pour des types strictement plus petits que les types mentionnés à gauche. Alors là où ça commence à sentir un peu le roussi, c'est des types inductifs comme les listes. D'accord. Donc, par exemple, le type des listes de alpha, donc c'est nil ou cons avec un alpha et un alpha list. Alors, bien sûr, on a envie de dire que les valeurs de type T list, ben, c'est soit nil, soit le constructeur cons appliqué à une valeur V qui est dans V de T et une valeur W qui est dans V de T list. Et là, on voit apparaître une circularité apparente, puisque V de T list est à la fois à gauche et à droite de cette équation. Malgré tout, ça reste bien fondé parce qu'on peut faire une récurrence locale sur la structure de la valeur V, qui va nous définir V de T de liste, et ensuite une récurrence globale sur la structure du type T. Donc on peut réécrire ça comme ceci, d'accord ? V de T de liste, c'est le plus petit ensemble X tel que qui contient un nil, enfin qui est égal à nil union cons de V et de W, où V est dans V de T et W est lui-même dans X. D'accord ? Donc ça, c'est le point fixe local. Et là, vous voyez maintenant que V de T de liste est défini en termes de V de T, et tout va bien. Alors, une manière moins pédante de dire ça, c'est juste que les valeurs de type T de liste, liste de T, c'est en fait de la forme cons de V1, cons de V2, cons de Vn, nil, pour 0, 1 ou n valeurs V, qui doivent toutes être des valeurs de type T. Mais là où on a un vrai problème, c'est avec des types récursifs qui ne sont pas inductifs, donc qui ont des occurrences qui ne sont pas strictement positives dans les types des constructeurs. Et alors l'exemple typique, c'est ce type, lame, qui a un constructeur lame et qui porte une fonction des lames dans les lames. Donc lame, ça veut dire lambda, et en fait, ce type, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, il est isomorphe au lambda calcul pur. D'accord ? Et donc maintenant, si on essaye d'écrire une définition pour V de lame, ben ça se passe très très mal. Donc les valeurs de type lame, c'est le constructeur lame appliqué à des fonctions f qui doivent être sémantiquement de type lame flèche lame, c'est-à-dire le constructeur lame appliqué à des lambda x point a, tel que pour tout V dans V de lame, a où x devient V est dans E de lame. Et là, on a une vraie circularité qu'on ne sait pas éliminer, au niveau de V de lame, d'accord, qui apparaît en plus en position négative, contravariante, dans l'expression qui définit lui-même. Donc cette définition n'en est pas vraiment une, c'est une équation de point fixe. On ne sait pas la résoudre dans les ensembles, pour des raisons de... Enfin, ce n'est pas très clair. En général, il y a des problèmes de cardinalité. Qu'on peut résoudre dans d'autres catégories, par exemple dans les domaines de Scott. Donc les domaines de Scott permettent de construire un domaine D infini qui est effectivement isomorphe à D infini, aux fonctions continues de D infini dans lui-même. Et donc on peut chercher de l'inspiration de ce côté-là. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait Andrew Apple et David McAllister à la fin des années 90. Donc Andrew Apple... Donc il avait ce projet qui s'appelait Foundational Proof Carrying Code, donc, où l'idée était essentiellement de typer des langages, des codes de bas niveau, du langage machine, en utilisant des types de haut niveau, les types de ML ou de système F ou de F omega ou plus. Et en plus, il voulait, et donc pour ça, il voulait essentiellement interpréter les types comme des ensembles, alors pas de valeurs de haut niveau, mais plutôt d'objets de la machine, d'adresse mémoire, de code machine, etc. Et il voulait une interprétation qui se mécanise facilement, donc qui puisse être vérifiée, exprimée et vérifiée dans un assistant de preuve très simple. Donc il avait choisi ELF à l'époque, donc la logique LF. Donc en gros, il ne voulait pas de faire de la théorie des domaines ou des choses comme ça. Il voulait rester avec des techniques complètement élémentaires et syntaxiques. Et donc, lui, Andrew Appel et David McAllister ont eu cette idée brillante qu'on peut fonder la définition des ensembles V de T, non pas par récurrence sur la structure de T, mais par récurrence sur autre chose. Ça peut être un autre paramètre, en l'occurrence un entier, et cet entier représente un nombre d'étapes de réduction. C'est le nombre maximal d'étapes de réduction qu'on se permet de faire pour évaluer des expressions ou pour appliquer des valeurs ou examiner des valeurs, appliquer des valeurs qui sont des fonctions, déstructurer des termes construits. Et donc la technique, alors le E parle d'un modèle indexé des types récursifs, mais la technique est passée dans l'usage sous le nom de step indexing, le comptage de pas, le comptage d'étapes de calcul. Alors, j'ai essayé de vous donner un peu plus d'intuition avant de vous montrer les équations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sémantiquement qu'une expression A est de type int, d'accord, le type des entiers ? La réponse habituelle, c'est de dire, bon, si A se réduit en un entier, un nombre entier, ou si A diverge, alors oui, A est bien de type int. En revanche, si A se réduit en une erreur, ou en une valeur qui n'est pas un entier, une chaîne de caractères, une lambda abstraction, donc non, A n'est pas de type int, c'est clair. Et alors la réponse à pas compter, la réponse avec comptage de pas, ça consiste à se dire, bon, on va se donner un nombre, un entier k, un nombre d'étapes de calcul k. Et si en k étapes au plus, A se réduit en un entier ou n'atteint pas une forme normale, on va dire que oui, A semble de type int pour k étapes. On n'en est pas encore complètement sûr, parce que si A n'a pas atteint de forme normale en k étapes, peut-être qu'à la k plus unième étape, A va se réduire en une chaîne de caractères. Et là, on verra bien que non, ce n'est pas un entier et ça ne va pas. Mais en k étapes, A semble de type int. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, si en k étapes au plus, A s'est déjà réduit en erreur ou en une valeur qui n'est pas un entier, là, on peut conclure immédiatement que A n'est pas de type int. Et finalement, on va dire que A est type int si A semble de type int pour k étapes, k étant arbitraire. D'accord ? N'importe quel nombre d'étapes, A semble de type int. Et donc ça donne cette définition formelle, qui est un petit peu difficile à lire, et ce n'est que la première d'une longue série, donc essayez, restez avec moi. Donc on va noter A flèche K B pour dire A se réduit vers B en K étapes de réduction. D'accord ? Donc K bêta réduction par exemple. Et maintenant, on va définir donc VK de T, donc l'ensemble des valeurs qui semblent être de type T en K étapes au plus. Alors, pour les entiers, ben, ça n'a pas changé. Les valeurs de type int, c'est les entiers n. Pas de problème. En revanche, les valeurs de type t flèche s, en k étapes, donc c'est des fonctions, lambda x.a, telles que, pour tout nombre d'étapes j inférieur à k, si on l'applique à une valeur v qui est dans vj de t, on obtient un calcul, a x devient v, qui est dans ej de s. Donc on a diminué le nombre d'étapes de calcul d'au moins 1, et on va voir pourquoi immédiatement après. Et pour finir, en fait j'aurais dû commencer par ça, qu'est-ce que c'est qu'un calcul de type t pour k étapes ? Donc c'est une expression qui semble de type t pour k étapes. Donc c'est une expression a qui, si elle se réduit en b en j étapes, j étant au maximum k, en un B irréductible en J étapes, alors le B en question est une valeur de type T pour le nombre d'étapes qui restent, donc si on l'observe pour K-J étapes. Donc là, il y a un petit jeu très subtil sur la manière dont on divise notre capital K de nombre d'étapes de calcul. On peut en utiliser J pour réduire B en un B irréductible, Et après, mais c'est pour ça qu'on est consommé toutes nos k-étapes, ben en fait, on peut plus vraiment observer B, d'accord, il y a pratiquement rien qu'on peut dire sur B. Si B est une lambda abstraction, par exemple, on ne peut plus l'appliquer, on n'a plus de carburant, d'accord. On a plus d'étapes de calcul, donc en gros, on va avoir ici une condition très faible. En revanche, si B se réduit très vite, en très peu d'étapes de, A se réduit en très peu d'étapes de calcul vers B, alors il nous reste plus d'étapes de calcul pour examiner le résultat B. Donc une abstraction, je crois que je l'avais déjà dit, alors, sauf que pourquoi J strictement plus petit que K ici, alors que là c'est J inférieur ou égal à K ? Eh bien c'est que l'idée c'est que pour observer une valeur de type T flèche S, c'est forcément une fonction, il faut forcément l'appliquer à une valeur. Et l'application, ça va compter une étape de calcul. Il y a une bêta réduction qui est cachée ici, d'accord ? Et donc parce qu'il y a une étape de bêta réduction, forcément, il nous reste J étapes strictement plus petit que K, d'accord, pour choisir une valeur et l'observer, et exécuter la fonction sur cet argument et observer ce que ça donne. Et alors, dernier mystère, pourquoi ici on prend une valeur qui semble de type T pour seulement J étapes ? Ben, c'est l'idée que le calcul qui est ici, alors il va pouvoir observer la valeur V, d'accord, mais il ne va pas pouvoir l'observer pour plus de J étapes. D'accord, lui-même, il va faire quelques calculs, et puis il va aller regarder dans la valeur V des choses, il va l'appliquer si c'est une fonction, il va faire du filtrage dessus si c'est un terme construit, mais tout ça va consommer des étapes de calcul. Et donc, en J étapes de calcul, excusez-moi, on ne peut pas vraiment observer la valeur J à une profondeur plus grande que la valeur V à une profondeur plus grande que J. Bon, donc voilà la définition. Et alors, elle semble un petit peu compliquée, mais là où les morceaux du puzzle vont s'assembler, c'est quand on ajoute des types récursifs. D'accord ? Donc, alors on va utiliser la même présentation qu'à la fin du cours précédent. Donc, si on a un opérateur f des types dans les types, on va noter mu f, donc ce type algébrique, un constructeur, roll, qui vous prend donc un f de mu f et vous renvoie un mu f, et puis le unroll étant le destructeur, le filtrage correspondant. Du coup, on a cette règle de réduction, unroll de roll de v, c'est v, d'accord, qui est une règle qui s'ajoute à la bêta réduction. Et donc maintenant, c'est quoi l'ensemble des valeurs de type mu f ? Alors c'est forcément roll de quelque chose, d'accord, roll c'est le constructeur du type mu f. Au niveau 0, c'est roll de v pour n'importe quelle valeur v, parce que de toute manière, on ne va pas pouvoir examiner. Si on n'a plus de temps de calcul, on ne va pas pouvoir examiner en dessous de roll, d'accord ? On ne va pas pouvoir aller appliquer le destructeur unroll et examiner la valeur v. Et pour k plus une étape, donc les valeurs de type mu f sont de la forme roll de v, où v est de type f de mu de f, l'argument du constructeur roll, pour k étapes. D'accord ? Donc, on examine l'argument du constructeur pour une étape de moins. Et du coup, la définition des V de K de T n'est plus bien fondée par récurrence sur T, parce que ici, F de mu de F, ça peut être arbitrairement grand comme type, ça peut contenir mu de F en particulier. Donc, on n'est plus bien fondé par récurrence sur T. C'est ce qu'on a vu, par exemple, pour les lambda termes, la lame égale lame flèche lame. Mais on est bien fondé par récurrence sur K. Et alors c'est ça qui est vraiment le résultat très très fort. Donc ici c'est évident, d'accord, le V de K plus 1 est défini en termes de V de K. Mais c'est vrai aussi pour le type T flèche S, parce que ici on utilise des V de J et des E de J qui utilisent des V de J et des E de J pour J strictement plus petit que K. Et E de J lui-même, il utilise V pour des choses qui sont encore inférieures ou égales à J, donc strictement plus petites que K. D'accord. Donc maintenant, tout est bien fondé par récurrence, non plus sur le type, mais sur ce paramètre K, qui est le nombre maximal d'étapes de calcul. Donc, mission accomplie. Andrew Appel et David McAllister ont leur modèle des types récursifs. Mais on va voir qu'il y a plein d'autres applications. Alors, une application, donc le fameux type des lambda termes purs. Donc D, c'est mu de lambda t, t flèche t, d'accord ? Ça vous donne un type D qui est isomorphe à D flèche D. Et donc, sans surprise, donc c'est quoi les valeurs de type D au niveau 0 ? C'est des rôles de n'importe quoi. Et des valeurs de type D au niveau K plus 1, c'est rôles de lambda abstraction, lambda x.a, pourvu que ces lambda envoient des valeurs de type VJ2D vers des calculs de type EJ2D, d'accord, pour J plus petit que K. Et c'est le J plus petit que K qui évite la circularité qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Alors, les principales propriétés de ces choses-là, d'abord, alors, il y a une propriété de décroissance. Si J est inférieur ou égal à K, donc tout ce qui est dans... Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire là ? Oui, une valeur qui est type T pour K étapes et aussi de type T pour J étapes où J est inférieur ou égal à K. Même chose pour un calcul, une expression, d'accord ? Donc, moins on se donne d'étapes et plus nos ensembles de valeurs sont grands et d'expressions sont grands, d'accord ? Parce que moins on peut les observer finement. En revanche, si au contraire on augmente le nombre d'étapes K, on les observe de plus en plus finement. On a une compatibilité avec les réductions, donc si A se réduit en B, alors A semble de type T pour K plus une étape, si et seulement si B semble de type T pour K étapes, d'accord ? Et la différence, c'est parce qu'il y a une étape de plus qui nous mène de A vers B. Et puis, on peut montrer l'équivalent du théorème fondamental, mais toujours avec des indices. Donc, si vous avez un terme A de type T sous certaines hypothèses sur les variables libres, xi, x1, xn, vous remplacez les variables libres par des valeurs qui sont dans les vk de ti, et vous obtenez un calcul qui est dans les ok de t, et ce, pour n'importe quel ok. Alors, je vais vous esquisser un cas de la démonstration, non pas que la démonstration est très importante ou très difficile, c'est surtout pour montrer le genre de comptabilité qu'on est obligé de faire sur ces nombres de pas. À la fois montrer que c'est des raisonnements élémentaires, à la base d'inégalité entière, et de montrer aussi que c'est un peu fatigant quand même. Donc il y a un des cas du théorème fondamental, qui est le cas de l'application. Si vous avez un terme A, un calcul A qui semble de type T flèche S pour K étapes, un terme B qui semble de type T pour K étapes, il faut montrer que l'application à appliquer à B semble de type S pour K étapes. Et donc, on est mené à examiner des réductions de l'application AB en un terme irréductible et compter le nombre d'étapes. Alors, je vous affirme que les réductions, elles commencent par réduire A en quelque chose et B en quelque chose. Et comme A semble d'un type flèche, il va forcément se réduire en une lambda abstraction. B va forcément se réduire en une valeur. Donc là, on peut continuer à réduire par une bêta réduction. Et puis, on peut encore faire quelques étapes de réduction pour arriver à un terme irréductible D. Donc au total, on a fait n étapes pour réduire A en une lambda, m pour réduire B en une valeur, une pour faire la bêta réduction, et p pour atteindre notre terme irréductible. Donc notre nombre d'étapes de réduction j, c'est n plus m plus 1 plus p, et j est inférieur ou égal à k. Et maintenant, il faut montrer que notre terme irréductible semble bien être une valeur de type s pour q étapes, où q c'est k moins j. Et en fait, il faut juste utiliser intelligemment nos hypothèses de récurrence. Donc on sait que lambda x.c est une valeur de type t flèche s pour k moins n étapes, ou moins. Et en fait, on a juste besoin de savoir que c'est de type t flèche s pour p plus q plus une étape. Et faites-moi confiance, p plus q plus 1, c'est inférieur ou égal à k moins n. Donc ça marche. De même, la valeur v, elle est de type t pour k moins m étape au plus, et donc en particulier pour p plus q étape. Et maintenant, en mettant ces deux choses ensemble, on obtient que la substitution de x par v dans le corps de la fonction est un calcul qui semble de type s pour p plus q étape. Et donc, vu qu'il se réduit en terme irréductible d en p étape, le terme irréductible est une valeur de type s pour q étape, c'est qfd. D'accord. Donc ça marche, j'ai fait que des raisonnements entiers élémentaires, mais c'est insupportable. D'accord, M, N, 1, P et Q, ça fait quand même beaucoup de paramètres entiers. Alors, on peut tout à fait étendre l'approche aux relations logiques binaires. Hein. Je vous le montre juste, mais pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc maintenant, nos relations sont paramétrées par donc, un K et un type et sont des ensembles de paires, donc de relient deux valeurs. Les entiers, c'est les paires NN pour n'importe quel entier. Les fonctions, c'est des paires de lambda. Oui, il y a une petite erreur ici. Pour un type récursif, c'est des paires de la forme rôle de V1, rôle de V2. Et finalement, donc pour les expressions, donc deux expressions A1 à A2 sont reliées, semblent être reliées au type T pour K étapes. Si je réduis A1 en B1 irréductible en J étapes, je peux réduire A2 en B2 en un nombre quelconque d'étapes et obtenir B1 et B2 qui sont reliés. Et il y a une dissymétrie, là encore une fois, qui est voulue, entre on contrôle le nombre d'étapes de réduction de A1, mais on se donne un nombre quelconque d'étapes de réduction de A2 pour obtenir une valeur B2 qui va correspondre à la valeur B1 qu'on a obtenue ici. Et c'est intentionnel, c'est ça qui permet de mettre en relation des fonctions qui vont faire des nombres variables, qui vont différer sur le nombre d'étapes de calcul, parce qu'ils n'implémentent pas le même algorithme, mais qui calculent la même chose. D'accord ? Voilà. Et alors maintenant, je voulais vous montrer une autre formulation du step indexing, où justement, on n'a plus, ou presque plus, à compter des nombres entiers, des nombres d'étapes, mais en échange, on se place dans une logique modale, avec une modalité plus tard, qu'on a déjà vue tout à l'heure. Donc, revenons sur cette définition de EK de T, d'accord, l'ensemble des expressions A qui semblent de type T en K étapes. Donc là, on considère J étapes de réduction, J étant entre 0 et K, issu de A. Mais en fait, on peut juste considérer deux cas. Il y a zéro réduction, c'est-à-dire que A est irréductible, ou il y a une réduction issue de A. Parce que si A est irréductible, A est dans EK de T, si et seulement si A est dans VK de T, et si A se réduit en une étape vers B, A est dans EK de T, si B est dans EK-1 de T. D'accord ? Alors, il y a un cas K égale 0, ou d'ailleurs, je me suis trompé ici. Le cas K égale 0, en fait, c'est toujours vrai. Donc, contrairement à ce que j'ai écrit ici, donc si et seulement si K égale 0 ou B est dans EK-1 de T. Et alors, pourquoi cette remarque ? C'est parce que, du coup, on peut définir EK de T différemment. En disant que c'est l'ensemble des A qui, s'ils sont irréductibles, appartiennent à VK de T, et s'ils se réduisent en B, alors B appartient à EK-1 de T, avec par convention donc E-1 de T, ce qui est tous les termes. Cette définition, elle est équivalente, et elle reste bien fondée par récurrence sur K, parce que vous voyez que là, on fait appel à EK-1 de T, et puis là, on fait appel à un VK, qui lui va faire appel à des EJ, qui est avec J plus petit strictement que K, donc tout va bien. Bon, j'ai dit ça, j'ai pas encore dit grand-chose, maintenant on va noter, on va introduire la modalité plus tard. Donc on va noter, pour le moment c'est juste une notation, plus tard de E, comme une famille indexée par des entiers. Et donc plus tard de E de K plus 1, c'est E de K, et plus tard de E de 0, c'est tous les termes. Donc, on peut réécrire une fois de plus notre EK de T comme ceci. Et dans le cas récursif, c'est B qui appartient à plus tard de E de K de T. Et alors, si on joue au même petit jeu avec les valeurs, donc plus tard de V de K plus 1, c'est V de K, plus tard de V de 0, c'est toutes les valeurs, ben, les deux cas qu'on avait pour les types récursifs, d'accord, il fallait distinguer 0 et K plus 1, se réécrivent en un seul cas modal. Donc VK de mu F, c'est l'ensemble des valeurs ROL de V, où V est une valeur qui est dans plus tard de V de K de F de mu de F. D'accord ? Bon. Encore une petite réécriture. On peut réécrire le cas des fonctions. VK de T flèche S en utilisant notre modalité plus tard. Donc rappelez-vous, on avait ça avec une quantification sur les J strictement plus petits que K. Et qu'on peut réécrire un petit peu différemment en disant, donc pour toute valeur V, pour tout J inférieur ou égal à K, si V est dans plus tard de V de J, alors le calcul est dans plus tard de E de J de S. Et pourquoi réécrire comme ça? Parce que c'est une quantification qui a la bonne tête, qui a la tête de l'implication dans le modèle de crypto-intuitionniste. D'accord? Rappelez-vous, dans le modèle K, si, dans le monde K, pardon, le monde c'est nos entiers, hein, c'est nos indices, dans le monde K, A implique B, si et seulement si pour tout J inférieur ou égal à K, A est vrai dans J implique B est vrai dans J. Et donc, on peut enfin assembler les morceaux du puzzle en rendant le paramètre K le nombre d'étapes complètement implicite, parce qu'on s'est placé dans cette logique du topos des arbres qu'on a vu au cours précédent, et celle qui a cette modalité plus tard, qui permet de faire des raisonnements modaux ou temporels, ou sur le nombre d'étapes de calcul qu'il nous reste à faire, sans expliciter ce nombre. D'accord ? Donc maintenant, on définit ET et VT juste par des équations qui ne parlent plus, qui ne sont plus indicées par K. Donc V de int, c'est l'ensemble des n entiers. V de T flèche S, c'est l'ensemble des lambda x, des lambda abstraction, lambda x point A, tel que pour toute valeur V, si V est dans plus tard de V de T, A de x ou x devient V est dans plus tard de E de S. Les valeurs de type, du type récursif mu f, c'est les valeurs roll v ou v est dans plus tard de v de f de mu de f. Et les termes de type e de t sont des expressions qui, si elles sont irréductibles, sont dans v de t, et si elles se réduisent en b, alors b est dans plus tard de e de t. D'accord ? Donc j'ai dit des plus tard, mais j'ai plus dit d'indice ek. Et alors pourquoi cette définition reste bien fondée ? C'est pourquoi ce n'est pas juste des équations, c'est une vraie définition. C'est parce que e et v sont définis en termes de plus tard de V et plus tard de E. Donc on peut voir ça comme une espèce de point fixe, d'accord, d'une fonction, qui étant donné plus tard de E et plus tard de V, va vous donner E et V. Et eh bien, la règle de Loeb, rappelez-vous, d'accord, c'est à partir de plus tard de A, je peux montrer A, en fait, c'est l'opérateur de point fixe qui nous dit qu'il y a un unique point fixe pour ça, et qui définit E et V de manière non ambiguë. D'accord ? Donc on a remplacé des récursions par des entiers, récursion habituelle par des entiers, sur des entiers, par une récurrence de Loeb qui fait intervenir la modalité plus tard. Ah oui, alors je vous rappelle donc la règle de Loeb, d'accord, plus tard de A implique A. Si plus tard de A implique A, alors A est vrai. Et la démonstration constructive de ce truc-là, c'est un opérateur de point fixe. Quelques autres propriétés utiles de la modalité, en particulier qu'elle commute avec les connecteurs et ou implique. Du coup, il y a une variante de la règle de Loeb que j'aime appeler la récurrence de Loeb. Si pour montrer A implique B, vous pouvez supposer que plus tard de A implique plus tard de B. C'est ça votre hypothèse de récurrence supplémentaire. Et alors, application, exemple d'application. On va refaire le lemme qui correspond au cas, à un des cas du théorème fondamental des relations logiques, le cas de l'application. Donc maintenant, on veut montrer, dans notre logique modale, que si A est une expression de type T flèche S et B est une expression de type T, enfin appartient à E de T, alors A de B appartient, A appliqué à B appartient à E de S. Donc on fait une récurrence de Loeb. L'hypothèse de récurrence, c'est que le théorème est vrai pour plus tard de E. Pour plus tard de E. Et maintenant, au lieu de compter les étapes de réduction, on fait juste une analyse de cas. Est-ce que A se réduit ou est irréductible ? Est-ce que B se réduit ou est irréductible ? Si A et B sont irréductibles, A est dans V de T flèche S, donc A est une lambda, B est dans V de T, est une valeur. Donc B est aussi dans plus tard de V de T, ça c'est une propriété générale de la modalité plus tard, vous pouvez toujours l'appliquer. Donc, C ou X devient V est dans plus tard de E de S, ça c'est la définition de V de T flèche S. Et par ailleurs, A appliqué à B se réduit en une étape en C où X devient V, donc A appliqué à B est bien dans E de S. Et puis, les cas où A se réduit, ou bien A est irréductible mais B se réduit, en fait, découlent directement de l'hypothèse de récurrence, parce qu'on peut faire une réduction sur l'application aussi. Bon, je ne rentre pas dans les détails plus, mais juste pour vous montrer qu'il n'y a plus de comptage de pas, on ne fait plus cette comptabilité un peu pénible, où on décompose nos k étapes en n plus m plus 1 plus p plus q. En fait, la récurrence qu'on fait, c'est une récurrence dans le style de Loeb. Alors, un autre avantage, ou autre chose que cette formulation rend assez facile, c'est de compter certaines réductions uniquement. Donc, par exemple, on peut ne pas compter les bêta-réductions, mais seulement compter les réductions unroll de roll. Et ça, ça correspond en fait à appliquer la modalité plus tard de manière plus économe. On va par exemple l'appliquer là où on a absolument besoin, c'est-à-dire dans le cas des types récursifs, parce que là, on va se retrouver avec un type plus grand, donc il faut absolument passer à plus tard. En revanche, on peut ne pas appliquer la modalité dans le cas des types flèches, parce que là, on reste bien fondé par récurrence sur les types. Et du coup, il faut ajuster un petit peu qu'est-ce qu'on compte comme réduction. Donc si on n'a fait que des bêta-réductions, ça compte pour 0, il n'y a pas besoin de modalité. Et si on a fait exactement une réduction unroll et 0, une ou plusieurs bêta-réductions, alors il y a une modalité à appliquer. Et ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la définition de V et de E reste bien fondée par une double récurrence. D'abord une récurrence locale sur la structure du type T, puis par une récurrence de lobe pour traiter ces deux cas-là. Alors autre chose, autre extension qui fonctionne très bien, et je ne rentre pas trop dans les détails, c'est on peut faire des relations logiques binaires dans ce style, donc sans comptage d'étapes explicite, mais avec une modalité plus tard. Voilà. Je ne vais même pas vous lire les définitions. Maintenant, je voudrais passer à une autre extension difficile. Des relations logiques qui deviennent possibles avec le comptage d'étapes. Donc, l'extension, c'est l'état mutable. Donc, l'état mutable, c'est la caractéristique principale des langages de programmation impératifs. D'accord, c'est la capacité de modifier en place une structure de données déjà construite, une variable déjà définie par affectation. D'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire par en place ? Ben, par exemple, la concaténation de deux listes, donc dans le style C, d'accord. Donc en C, une cellule de liste, c'est un raccord avec un pointeur, le tail, la queue, c'est un pointeur vers une autre structure, ou c'est nil s'il n'y a pas de. Si c'est la dernière cellule. Et pour concaténer une liste L et une liste M, on avance dans la liste L jusqu'à ce que le champ tail soit égal à nul. Et vous voyez, on le fait par affectation successive dans la variable L. Et puis on finit par affecter dans le champ tail de L, de la dernière cellule. On remplace le nul par le M qu'on nous a donné, et ce qui connecte les deux listes. Maintenant, L se poursuit par M. Bon. Voilà, donc de la belle programmation impérative, comme on n'en verra pas très souvent dans ce cours. Et donc, une présentation de ces choses-là, quand on fait de la sémantique, ou même quand on programme dans des langages comme les langages de la famille YAML, comme CAML, c'est les références. Donc une référence, c'est juste une cellule d'indirection mutable. Vous pouvez voir ça comme un tableau, un élément. Et du coup, en combinant des références avec d'autres structures de données immuables, fonctionnelles, ben on obtient des structures de données mutables. Par exemple, si vous prenez les listes habituelles comme en CAML, mais vous dites que cons, ça prend une alpha ref, donc une référence vers une valeur de type alpha, et une référence vers une alpha m list, d'accord, ben vous avez une liste à la C, dans laquelle vous pouvez muter dans chaque cellule de liste, aussi bien la tête et que la queue. Bien, donc ça suffit pour faire de la programmation impérative, ou du moins pour raisonner dessus. Et donc on a un type TREF, qui sont les références qui contiennent des valeurs de type T. Une fonction pour créer et initialiser une référence, donc vous lui donnez une valeur initiale de type T, elle vous renvoie une TREF, une référence contenant cette valeur. Un opérateur de déréférencement, point d'exclamation, qui vous renvoie la valeur courante contenue dans la référence. Et un opérateur d'affectation, vous lui donnez une référence et une nouvelle valeur, et il stocke cette nouvelle valeur dedans. Bon, donc voilà pour les références et pour leur donner une sémantique. Alors c'est un petit peu délicat, une sémantique par réduction, c'est un petit peu délicat parce que si on fait juste des bêta-réductions, comme d'habitude, on ne rend pas compte du partage d'une même référence entre une lecture et une écriture. Par exemple, à gauche ici, donc je crée une nouvelle référence initialisée à 1, je la lis à la variable R et je l'utilise deux fois. Une première fois pour affecter 2 dans la référence, une deuxième fois pour lire la référence. Donc je m'attends à avoir 2 comme résultat. En revanche, si je fais une bêta-réduction, si je remplace R par ref de 1 dans le reste du calcul, Là, je me retrouve avec deux références différentes. Ici, je crée une référence initialisée à 1 dans lequel je mets 2. Là, je crée une autre référence initialisée à 1 que je déréférence et j'obtiens 1. Donc, j'ai perdu le partage. Donc, la sémantique n'est pas bonne. Et la solution, c'est de mettre un niveau d'indirection supplémentaire dans la sémantique. Donc, il y a cet adage qu'en informatique, tout problème peut se résoudre avec un niveau supplémentaire d'indirection. Donc là, le niveau d'indirection supplémentaire, c'est de dire bon, que les références vont s'évaluer en des adresses, petit l, locations en anglais. Vous pouvez voir ça comme des entiers dans la mémoire vive de votre ordinateur. Vous pouvez voir ça comme des identifiants d'une autre classe. Et on va avoir un état mémoire, petit m, qui est une fonction finie des adresses dans les valeurs qui, donc pour chaque référence, enregistre la valeur courante, un peu comme la mémoire vive de votre ordinateur. Et du coup, la sémantique opérationnelle va réduire des configurations, des paires d'un terme A et d'un état mémoire M. Et donc voilà les règles de réduction typiques. Alors, quand on a des réductions comme la bêta-réduction qui ne changent pas l'état mémoire, qui sont pures, l'état mémoire ne change pas, d'accord. En revanche, seule la partie A de la configuration AM change. Et en revanche, les trois règles pour les références font intervenir l'état mémoire M. Donc, créer une nouvelle référence, évaluer ref de V, c'est choisir une adresse L qui n'est pas déjà utilisée dans l'état mémoire M, la renvoyer comme valeur pour ref de V, et ajouter dans l'état mémoire une entrée L contient V. Déréférencer une adresse, c'est aller chercher sa valeur dans l'état mémoire courant, et affecter une valeur V à une adresse L, c'est changer le contenu de la case L dans M et mettre V à la place. Bon. Voilà. Alors maintenant, donc ça c'est la sémantique opérationnelle qu'on va utiliser. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut raisonner dessus, en particulier raisonner à la manière des relations logiques et de l'idée donc qu'un type, interpréter les types par des ensembles de valeurs. Donc là, on a un petit problème pour raisonner sur les états mémoire, mettre des types sur les états mémoire, parce qu'un état mémoire, c'est un objet qui est très hétérogène. Ce n'est pas comme une liste camel ou un tableau camel où toutes les cases ont le même type. D'accord ? Vous pouvez très bien avoir deux adresses différentes qui contiennent deux valeurs de types différents. D'abord, j'ai fait une référence vers 1, donc qui contient une case mémoire qui contient un entier. Ensuite, je fais une référence vers une chaîne de caractères et j'ai une case mémoire qui contient une référence vers une chaîne de caractères, qui contient une chaîne de caractères. Et donc, pour typer l'état mémoire, on va avoir besoin de quelque chose en plus, et qui s'appelle un type d'état mémoire, et qui est une fonction finie des adresses dans les types, de même qu'un état mémoire est une fonction finie des adresses dans les valeurs. Bien. Alors, dans un premier temps, on va dire que le type associé à une adresse, c'est un type syntaxique, c'est juste une expression de type, et non pas un type sémantique, un ensemble de valeurs, comme on a vu tout à l'heure, parce que c'est plus compliqué. Donc, si on a juste... Des types syntaxiques, on comprend assez bien ce qui se passe. En particulier, le fait que le type M de L d'une adresse valide L doit rester le même tout au long de l'exécution. D'accord ? Parce que sinon, on pourrait casser la sûreté du typage. Par exemple, on pourrait commencer par affecter 1 dans une case mémoire L et dire « mais oui, tout va bien, puisque le type associé à L, c'est int ». Puis si on pouvait changer ce type un peu plus tard et dire « ah ben non, finalement, le type associé à L, c'est la fonction, c'est un type de fonction, int flèche int », alors, des refs de L appliqués à 2 seraient moralement bien typés, et pourtant, ça revient à appliquer 1 à 2, et donc à faire un calcul mal typé. Donc, le type M de L doit, d'une adresse valide ne doit pas changer. D'un autre côté, M lui-même peut changer, puisque quand on alloue une nouvelle référence L, il va bien falloir rentrer une donnée supplémentaire dans grand M, qui est le type du contenu de la nouvelle adresse. Et donc, on a un ordre en ce type d'état. M peut évoluer en M', où M' contient M, qui est que le domaine de M' doit contenir au moins le domaine de M, donc toutes les adresses valides dans M le restent encore dans L'. Et justement, pour toutes ces adresses qui étaient valides dans M, M' et M sont d'accord, associent le même type à la référence. Et donc avec ça, on arrive à refaire un modèle des types références. Un modèle des types, pardon, qui inclut les types références. Donc cette fois-là, on interprète pas juste des types, mais des couples d'un type et d'un type d'état mémoire. Et alors, pour les entiers, c'est les entiers. Les valeurs de type TREF dans un type d'état mémoire grand M, c'est toutes les adresses qui ont le type T d'après grand M. d'accord, enfin qui sont valides et qui ont le type T d'après grand M. Je saute tout de suite aux expressions. Une expression de type T dans l'état mémoire grand M, c'est une expression A qui, si vous la mettez dans une mémoire petit m, qui est d'accord avec le type d'état mémoire grand M. Alors si c'est irréductible, A est une valeur de type T, M, et si ça se réduit en une étape, en, A, en un nouvel état mémoire M' et un nouveau terme B, alors l'état mémoire est bien typé dans une extension du type d'état mémoire grand M, parce qu'on a pu allouer, d'accord, donc on a pu étendre, et B est dans plus tard de E de T et de M'. Et puis, il nous reste les fonctions, et là aussi, il faut quantifier en fait, sur tous les M' qui peuvent contenir M, parce qu'entre le moment où on examine la fonction et le moment où on va vraiment l'appliquer, on a pu allouer de nouvelles références. D'accord ? Et donc, le type de l'état mémoire a pu grossir. Bon. Mais voilà. Donc, modulo les petits changements que j'ai mis en rouge. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire comment, qu'est-ce que ça veut dire qu'un état mémoire appartient à un type d'état mémoire. Eh bien, ça veut dire en fait, que le contenu de chaque case mémoire valide et eh bien, dans l'ensemble de valeurs qui correspond au type annoncé pour cette case mémoire. Bon, donc les notations pèsent 3 tonnes, mais je crois que l'intuition est relativement claire, d'accord. Et les changements par rapport au cas purement fonctionnel, donc sans état mutable, sont relativement localisés. Et ce typage par des types syntaxiques, il suffit pour démontrer la sûreté du typage en présence de références. D'accord. En revanche, il ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Et le genre de choses où on voudrait aller plus loin, c'est de pouvoir dire, telle case mémoire, telle référence, au lieu de contenir n'importe quelle valeur de son type, elle contient en fait certaines valeurs de son type. Il y a un invariant qui est vrai sur le contenu de cette case mémoire. Alors, l'exemple typique, c'est cette fonction gensim, donc générateur de symboles, qui vous renvoie un nouvel entier à chaque fois que vous l'appelez. Donc, c'est une fonction qui a un état local, qui est cette référence, initialement à 0, et qui est liée à la variable c. Et la fonction elle-même, donc à chaque fois qu'on l'appelle, elle incrémente c, et elle vous renvoie la valeur courante. Et là, il y a un invariant, alors en supposant une arithmétique entière exacte, sans débordement, où l'incrément de c ne déborde jamais. L'invariant, c'est que le contenu de C est toujours supérieur ou égal à 0 pendant toute l'exécution du programme. Parce que c'est vrai de la valeur initiale, et cet invariant est préservé par cette fonction qui est la seule à pouvoir accéder à cette référence. Bien. Et cet invariant, on aimerait bien le refléter dans notre modèle des types en disant le type sémantique, cette fois-ci associé à l'adresse mémoire L étant la valeur de C, c'est l'ensemble, c'est pas l'ensemble de tous les entiers, c'est l'ensemble des entiers supérieurs ou égaux à 0. Mais pour ça, il faut changer nos types d'état mémoire. Ce n'est plus des fonctions finies des adresses dans les types syntaxiques, dans les expressions de type, il faut que ce soit des fonctions finies des adresses dans les types sémantiques. Moralement, des ensembles de valeurs. Sauf que non, un type sémantique, ça n'est plus un ensemble de valeurs. Parce que les valeurs qui sont des références, les valeurs qui sont des fonctions, on ne peut pas les interpréter juste comme ça, il faut aussi un type d'état mémoire pour les interpréter. Et donc, un type sémantique, d'accord, c'est pas juste un ensemble de valeurs, c'est plutôt une fonction des types mémoire vers les ensembles de valeurs. Et donc, on tombe là encore une fois sur une circularité. Un type sémantique, c'est une fonction type même flèche ensemble de valeurs. Type même, c'est une fonction finie des adresses dans les types sémantiques. Et donc, on voit que type sémantique fait intervenir type sémantique en position négative dans sa propre définition, ce qui n'est pas évident. D'accord ? Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution dans les ensembles à cause de problèmes de cardinalité, en gros. Et sans doute une solution dans les domaines, mais comme on n'a pas envie de faire une théorie des domaines, on va plutôt utiliser du step indexing ou de la modalité plus tard pour avoir une solution facile, ou relativement facile. Et l'idée essentielle, c'est que accéder au contenu d'une référence, ça consomme une étape de calcul. D'accord ? Et donc, quand vous dites qu'une référence a le type TREF sémantiquement, pour cas étape, ça veut dire que son contenu a le type T, sémantiquement, pour K-1 étape. Ça suffit, d'accord. Et c'est donc ça qui va nous aider à casser cette circularité. le type sémantique associé à une adresse L peut être plus tard, peut être un cran moins précis que le type sémantique que l'on est en train d'essayer de construire. Et donc si on a un comptage de pas explicite, ça veut dire en fait que type sem et type mem, c'est des familles de types. Ce n'est pas le même type pour chaque indice, d'accord, mais c'est les familles de types qui sont définies par cette récursion. Donc type mem, type sem au niveau k, c'est type mem au niveau k, flèche p de val. Type mem au niveau k plus 1, c'est des fonctions finies des adresses dans type sem au niveau k. Et puis type mem au niveau 0, de toute manière, on n'ira jamais examiner parce qu'on n'a plus d'étape de calcul, donc on peut dire c'est une fonction finie des adresses dans un type arbitraire, le type unit, par exemple, un élément. Et cette famille de types, en fait, c'est la solution de l'équation suivante exprimée avec la modalité plus tard. Type sem égale adre, fonction finie des adresses dans les plans plus tard de type sem, flèche, ensemble de valeurs. Parce que dans cette logique du topos des arbres, on peut définir plus tard et faire des récurrences de l'ob sur des types quelconques, d'accord, pas juste sur des propositions logiques, etc. Et donc on peut faire un plus tard sur un type, et la solution, en fait, ça va nous donner des familles de types indexées par le nombre d'étapes de calcul, indexées par le monde courant. Et du coup, on arrive en fait à exprimer une relation logique unaire qui n'est pas trop affreuse et qui a des types sémantiques, cette fois-ci, et non plus des types syntaxiques. Et en fait, ça change très peu de choses. Donc une référence T, une adresse mémoire L est une TREF si, alors il faut quand même que l'ensemble des valeurs possibles, telles que le type de l'état mémoire M nous le donne, soit inclus dans l'ensemble des valeurs possibles du type T. D'accord, c'est ça qui va nous donner la sûreté du typage, mais il peut être plus petit. Et l'autre chose à observer, c'est que donc maintenant, oui, faut réintroduire des opérateurs de troncature. Donc on avait vu l'opérateur next qu'on avait vu très très vite à la fin du cours précédent. Donc next, c'est ce qui vous permet de passer d'un monde d'un type A à un type plus tard de A, d'accord. Et donc en particulier, quand vous appliquez M de L, qui est un type sémantique, vous l'appliquez à un monde, à un état mémoire, un type de l'état mémoire qui est un cran plus tard, donc qui est next. D'accord, vous devez introduire cet opérateur next pour respecter le typage, et c'est cet opérateur next qui aussi fait que toute cette définition est bien fondée, encore une fois, par un point fixe de l'ob. Et de même, il y a le même genre de petite subtilité quand vous dites que ce que ça veut dire qu'un état mémoire M' peut être obtenu par extension à partir de M. M', il est plus tard que M. Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est que pour les adresses qui existaient déjà, le type plus tard, M' de L, c'est le next du type que vous aviez avant. Donc le type peut changer un petit peu pendant l'exécution. Moralement, il peut devenir plus précis, mais parce qu'on a plus d'étapes de calcul pour l'examiner. Mais c'est tout. C'est le seul changement qui est possible. Bien, bon, tout ça est un peu indigeste, et donc de toute manière, il est temps de conclure ce cours. Mais, si vous trouvez ça un peu indigeste, vous trouverez que l'extension en relation logique binaire est vraiment indigeste, et d'ailleurs je ne vais pas vous le montrer, mais je vous renvoie par exemple aux articles de Dreyer et Rosberg et leurs co-auteurs. Et donc ça, avec des relations logiques binaires de ce style, vous pouvez mettre en relation deux fonctions qui ont de l'état mutable et montrer qu'elles sont observationnellement équivalentes. Donc ça, c'est un exemple qui est dû à Pitts et Stark en 1998. C'est deux variantes du GenSim de tout à l'heure, up et down. Up compte en incrémente son compteur local à chaque appel, down décrémente son compteur local à chaque appel, mais il renvoie l'opposé de son compteur local. Et donc, quand vous appelez, si vous appelez ces fonctions le même nombre de fois, vous allez obtenir le même nombre entier, même si l'état interne est différent. D'accord. Et pour raisonner sur cette fonction, il faut en fait relier les valeurs aux adresses L1 et L2 de ces deux cases, de ces deux références, par une relation qui dit que c'est toujours de la forme n moins n. N est l'opposé de n pour tout entier n positif. Bien. Et donc, plus généralement, on voit qu'il y a une espèce de rapprochement progressif entre, donc, d'un côté, les relations logiques pour langage d'ordre supérieur avec état mutable, et de l'autre, les logiques de programme. D'accord, logiques de programme qui, à l'origine, sont pour des langages impératifs du premier ordre. Quand je dis logique de Porin, je pense aux logiques de Hoare, vous savez, précondition, postcondition, invariant, ou ses extensions, la logique de séparation, la logique de séparation concurrente. Donc d'un côté, historiquement, ces logiques de Porin sont pour des programmes du premier ordre, il n'y a pas de fonction d'ordre supérieur. Et historiquement, les relations logiques sont pour des langages purs, mais traitent parfaitement l'ordre supérieur. D'accord. Et donc, ce que je vous ai montré là, c'est par exemple pour raisonner des équivalences là-dessus, c'est un début de rapprochement entre ces deux approches et un exemple récent de convergence très très forte entre ces deux approches, donc c'est IRIS, qui est un cadre général pour définir des logiques de séparation concurrente à l'intérieur de Koch, mais qui inclut également des modalités plus tard et pour toujours qui permettent de traiter ces aspects fonctions d'ordre supérieur. Qui manque dans la logique de séparation concurrente originale. Voilà. Un jour, peut-être l'an prochain, peut-être dans deux ans, j'aimerais faire une série de cours sur les logiques de programme, justement, pour revenir sur ces aspects-là. Voilà, donc je termine avec juste un peu de bibliographie, si vous voulez aller plus loin, donc les articles fondateurs, les reformulations à base de logique modale. Et puis, donc, si j'ai piqué votre curiosité sur IRIS, il y a un bon tutoriel qui est disponible en ligne, que vous allez voir. Voilà, je vous remercie.